Voilà, nous voulons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je suis heureux de pouvoir aussi partager ces moments avec vous ce matin. On a pu hier discuter de différents aspects de votre cheminement d'église et maintenant nous approcher du Seigneur, vraiment recevoir sa parole. C'est ce dont nous avons besoin, c'est ce qui nous nourrit, je l'espère. Et je vous invite donc à lire ensemble quelques versets du Sermon sur la montagne dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5 à partir du verset 43. Matthieu 5 à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jusqu'ici, notre lecture. Que faites-vous d'extraordinaire ? En voilà une interpellation, en voilà un défi. Jésus nous le lance et nous voilà invités à faire de grandes choses, de très grandes choses peut-être, extraordinaires, c'est ce que cela évoque pour nous, à devenir des hommes et des femmes hors du commun. Mes frères, mes sœurs, que faisons-nous, que ferons-nous d'extraordinaire ? Je me souviens que dans mes jeunes années, j'avais donné un message tout axé sur cette question. À partir de ce texte, avec la fougue de mes 30 ans, j'avais convoqué pour illustrer mon texte, mon interpellation, le livre des records. Ces actions extraordinaires en tout genre, dans toutes sortes de domaines. Et j'étais bien porté par mon sujet. Et régulièrement, je relançais la question « Que faites-vous d'extraordinaire ?» À la fin du culte, j'étais plutôt heureux d'avoir réussi à communiquer mon enthousiasme pour le dépassement. Et voilà qu'un jeune adulte de notre église, qui avait mon âge, quelqu'un de très posé, un peu décalé par moments, m'a fait un commentaire auquel je pense maintenant à chaque fois que je lis ce texte. Et il m'a dit, on parle d'extraordinaire, on rêve d'extraordinaire. Moi, je trouve que bien faire l'ordinaire, c'est déjà immense. C'est un défi tout aussi grand et peut-être même plus important, m'a-t-il dit. Pas facile la chute pour le jeune prédicateur que j'étais, je vous assure. Heureusement, j'avais comme mis quelques nuances dans mon propos. Mais le rappel était juste. Cela nous rappelle quand même que l'extraordinaire n'est pas une vertu en soi. Chercher l'extraordinaire peut même parfois être une fuite par rapport à l'ordinaire et à ses responsabilités. Et pourtant, c'est quand même Jésus qui nous lance la question. Que faites-vous d'extraordinaire ? Il nous parle d'un plus à accomplir quand même. Parler d'extraordinaire, parler de ce plus, c'est dire faire plus que l'ordinaire. Jésus le dit. Et c'est une question que nous devons intégrer si nous voulons suivre le Seigneur Jésus. Mais comment bien l'intégrer ? Alors il faut suivre le texte tel qu'il nous a dit. Qu'est-ce qui nous vaut cette question ? Est-ce que Jésus est en train de parler d'un grand projet pour ses disciples, pour son Église, en disant dans ce grand projet, qu'allez-vous faire d'extraordinaire ? Jésus renvoie ici à l'enseignement le plus basique de la loi. Et c'est à ce propos-là qu'il parle d'extraordinaire. Il reprend le commandement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. C'est de cela dont Jésus parle. Tu aimeras ton prochain. Le plus basique commandement, on le connaît tous. En même temps, c'est le second commandement. Celui qui a en ordre d'importance le rang qui vient juste après, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et Jésus nous dit, ce second commandement, il est semblable au premier, au même niveau que le premier. Donc c'est vrai que c'est à la fois quelque chose de basique, et en même temps, c'est le second commandement semblable au premier, nous dit Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce commandement, tel qu'on le citait, tel qu'on le recadrait mentalement, était un petit peu amputé. On avait laissé de côté d'abord la mesure que Dieu avait donnée. Tu aimeras ton prochain, non pas un peu moyennement, raisonnablement, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, disait le commandement de Dieu. Tu lui donneras la même valeur qu'à toi. C'est ça ce que veut dire aimer ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire concrètement qu'il aura souvent la priorité sur toi, parce que si tu fais vraiment pour lui ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, tu vas vraiment lui donner une vraie priorité. Se contenter de « tu aimeras ton prochain », et c'est ce qu'on faisait au temps de Jésus, permet de mettre toutes sortes de mesures, toutes sortes de bémols, de restrictions à ce commandement. Des petites mesurettes de rien du tout. Et puis, deuxième limite, non seulement on oubliait le « comme toi-même », mais ça permettait aussi de discuter et de se dire « mais qui est vraiment mon prochain ? Qui est vraiment mon prochain ? Et qui peut-être ne l'est pas ? Ou qui peut-être ne l'est plus à cause de choses qui sont passées entre nous ?» Le contexte immédiat, en Deutéronome, en Lévitique 19, parlait des enfants de ton peuple. Tu garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Et du coup, peut-être, cela permet de se bandir, de dire si quelqu'un n'est pas de mon peuple, il n'est peut-être pas tout à fait mon prochain. Facile de penser ce genre de choses-là. Du coup, peut-être ne suis-je pas tenu de l'aimer, tout comme peut-être je suis pas tenu d'aimer celui qui ne sera pas entièrement, qui est pas de ma race, ou de ma religion, ou de mon avis, ou qui peut-être est mon ennemi. Et voilà le commandement de l'amour du prochain qui se met à ressembler un petit peu à nos contrats d'assurance qui présentent des clauses de garantie, mais avec une curielle d'exception partout et d'exclusion en tout petit. Prochain, pareillement, s'écrit avec toutes sortes d'exceptions écrites en tout petit qu'on voit pas forcément. Pour être mon prochain, il faut remplir les conditions suivantes. Ne sont pas considérées comme prochains les personnes qui ont les caractéristiques suivantes, etc. À part cela, mes prochains, je les aime tous. Prochains, je vous aime. Et Jésus n'est pas dupe. Il dit, si on traduit cela concrètement, ça veut dire qu'en fait, vous dites, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Mettre des petits bémols à ça, on arrive au bout du compte à cette formulation-là. Et pourtant, le mot « prochain » est un mot vraiment ouvert, plus ouvert que le mot « frère », plus ouvert que le mot « ami ». Cette ouverture, elle est large, et cette ouverture, c'est un vrai défi. Aimer ton prochain, ce visage qui prend différentes formes. Et cette ouverture, elle peut nous amener à sortir des réactions ordinaires et à demander justement un peu d'extraordinaire, quelque chose qui va plus loin que l'ordinaire de ce qui nous est naturel. Et là, on rejoint ce que Jésus nous dit, en effet. La loi de Moïse demandait quand même de viser haut en termes de considération du prochain. Je me suis dit que c'est intéressant de regarder aussi ce texte de Lévitique 19 qui parle de « tu aimeras ton prochain ». Quand on prend le temps de lire ce chapitre, on se rend compte qu'il multiplie les attentions envers le prochain. Quelques exemples qui étaient écrits dans toutes lettres dans ce chapitre-là. Tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu abandonneras cela au malheureux et à l'immigrant. C'est ça, aimer le prochain, concrètement. Tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié. C'est aussi dans ce domaine-là que l'amour du prochain se manifeste. Tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras rien devant un aveugle qui puisse le faire trébucher. Le prochain, c'est celui qui est limité, handicapé peut-être. Tu auras des attentions pour lui. Tu n'auras pas d'égard à la personne du pauvre, ni de considération pour la personne du grand, mais tu jugeras selon la justice, l'équité envers chacun, le prochain, c'est ça aussi. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, ça vient aussi des racines de ce qui se passe en nous, la question du prochain. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, les égards pour l'un, pour l'autre, le respect. Vous n'exploiterez pas l'immigrant, les personnes fragiles, déracinées. Vous aimerez l'étranger qui réside chez vous, car vous-même, vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tout cela, c'est dans le même chapitre. Et tout cela, c'est contenu dans cette expression, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je trouve que c'est quand même riche de voir cela. Et on voit que Jésus citait vraiment l'Ancien Testament à bon escient. En ce qui concerne l'ennemi, les dispositions de la loi étaient assez claires, assez intéressantes. Voilà ce qu'il disait. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Et si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge, que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Voilà ce qu'enseignait la loi de Moïse sur le prochain, y compris le prochain un peu avec lequel on n'est pas trop bien. Et tout cela nous pousse à sortir hors de notre zone de confort, hors de la zone de nos réactions ordinaires. Et c'est là l'extraordinaire dont Jésus parle. Mais il est si facile de ne pas prendre en compte les dépassements auxquels nous sommes invités par la parole de Dieu, hein, et de mettre toutes ces astérisques un peu partout, qui font que cela nous permet de dire en tout cas, là, toi, t'es pas trop concerné quand on parle du prochain, lui n'est pas vraiment à prendre en vue, ou son cas, lui, est vraiment trop grave, il faut le mettre dans une catégorie à part. Comment sortir de ces facilités? Comment viser un peu plus haut que ces aplatissements? Jésus nous parle de deux lieux où le changement peut se passer en nous. Et Jésus nous parle de la prière comme étant l'un de ces lieux, prier pour ceux qui vous maltraitent, etc. Et il nous invite aussi à méditer sur l'action de notre Père Céleste. Deux domaines où Jésus nous dit, là vraiment, ce sont des endroits où vous pouvez travailler intérieurement la question de votre relation avec le prochain, y compris quand cette relation n'est pas facile. Vous remarquerez que ces lieux ne sont pas des lieux de confrontation directe avec le prochain. Hein. Ce sont pas des lieux de réponse du tac au tac si quelque chose s'est passé. On est beaucoup plus distancié. Hein, prier, méditer sur notre Père. Et ça nous rappelle que nous avons besoin parfois, lorsque les choses fusent un petit peu dans les relations, à calmer le jeu, à prendre de la distance, à ne pas nous laisser emporter toujours par les affects. C'est pas toujours dans la confrontation frontale que se règlent les choses. Certaines approches indirectes, certaines réactions un peu distanciées qui prennent du temps, ont leur valeur. Je voudrais juste noter cette petite notation hein, que de la loi de Moïse par rapport à celui qui te pose un problème. Le langage indirect, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Je trouve que c'est quand même intéressant de voir, on est là dans des choses, on fait quelque chose de positif pour l'ennemi, mais on n'est pas directement confronté à l'ennemi, il y a l'âne de l'ennemi. Et je trouve que c'est quand même intéressant cette idée de dire à un moment donné, c'est plus facile quand même de ramener l'âne de ton ennemi que d'aller direct lui serrer la main. Vous voyez, ce langage un peu indirect qui est là. Hein. Donc l'âne au moins, il t'a rien fait. Tu peux ramener l'âne chez ton ennemi, puis tu fais un petit bonjour de loin, et puis l'ennemi il comprend que tu es bien disposé. Et je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette chose tellement précise ici, là, de dire que le langage indirect, par moment, a vraiment sa valeur aussi. Il permet de dire des choses sans en évitant les confrontations qui peuvent faire des étincelles. Vous voyez, il y a un langage là qui est bien. Et pour celui qui agit, c'est possible. Et pour celui qui reçoit, c'est possible aussi. Donc, pensons de temps en temps aux ressources là de ce langage indirect qui dit des choses, mais en n'étant pas forcément dans la confrontation immédiate. En tout cas, Jésus nous invite un premier lieu, un premier chemin vers celui qui peut être éventuellement notre ennemi en mode indirect justement, et même en mode intime. Et c'est vraiment le fait de faire entrer cette personne dans nos prières. Hein. Je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et je dirais que la recette est simple. Enfin simple. Tu as du mal avec quelqu'un, prie pour lui, prie pour elle. Quand on est mal avec quelqu'un, on y pense beaucoup. Ça peut devenir obsessionnel. On repasse les mêmes choses, les mêmes films en permanence. Tous les griefs, tous les problèmes reviennent en avalanche. On sait qu'on fonctionne comme cela. Ça peut nous arriver. Et là, Jésus nous dit, mais prends un peu de distance, mon ami, et prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Il me semble que c'est une discipline là que Jésus nous propose. C'est pas pour dire, il suffit de prier, tout s'arrange, mais il y a là un lieu où nous pouvons vraiment travailler sur nous-mêmes devant Dieu. Et il faut bien dire que penser à une chose ou prier pour cette chose ou pour cette personne, ce n'est pas tout à fait pareil, même si c'est proche. Hein. Quand on pense, on est juste avec son propre regard. Avec ses propres affects. Ah, voilà, je pense à lui, à ce qu'il est, etc. Quand je prie, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Je pense, je parle, oui, mais en même temps, je suis devant Dieu. Et je dois ajuster ma parole, ma pensée, en fonction de Dieu qui est là, qui est présent, qui me regarde, devant qui je suis. Et tout ce que je dis, tout ce que je peux penser, je dois l'assumer devant Dieu. Et c'est pour ça, penser et prier, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a ce plus. Et Jésus nous invite, me semble-t-il vraiment, à dire vraiment, cultive les ressources du fait que dans certaines situations, tu vas parler à Dieu de tout cela. Tu parles à Dieu et tu te mets sous le regard de Dieu. Et tu en as besoin de cela. Alors quand même, il arrive que l'avalanche de tout ce qui est dans nos têtes gagne jusqu'à nos prières. Voyez même certaines prières de la Bible, les psaumes d'imprécation. « Ô Dieu, fais mourir le méchant. N'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi ? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. » C'est biblique, c'est le psaume 139, une parole de David. Après avoir dit « Seigneur, tu me connais tout ça. » Mais c'est une prière que de dire cela. On est là dans l'avalanche, force 4, hein. Mais en même temps, c'est une prière. Et si vraiment on dit sincèrement devant Dieu, ensuite on se place devant le Seigneur avec ce qu'on a dit, avec ce ressenti. Et c'est ce qui se passe dans ce psaume-là. Après que David ait laissé toute l'avalanche de ses sentiments se déployer devant Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et sonde-moi, connais mon cœur, c'est aussi sonde-moi, moi qui t'ai dit tout cela, l'avalanche et tout ça. Et voyez qu'on a là une façon de dire, si on est honnête devant Dieu, on vient devant Dieu avec tout ce qu'on porte en nous. Mais avec tout cela, on dit, Seigneur, maintenant, éclaire-moi. Seigneur, maintenant, regarde-moi. Change-moi là où je dois être changé et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et vous voyez, c'est ça calme l'avalanche. Ça calme l'avalanche. Et ça permet de la réguler. Et ça permet de se mettre sur des bons rails. Les rails vraiment de ce que Dieu veut. Et on commence à prier à ce moment-là pour nous-mêmes d'abord. Que Dieu purifie notre regard. Que Dieu apaise les choses, qu'il nous aide à voir juste. Qu'il nous aide à regarder l'autre de manière équitable. et peut-être un peu plus comme Dieu le voit. Et là, peut-être qu'on va commencer à prier même pour lui ou pour elle, à demander quelque chose pour lui ou pour elle. Alors, je pense que la chose la plus facile à faire, c'est de dire, Seigneur, change-le, change-la. De dire, c'est de toute façon lui ou elle qui a la faute, oh, Seigneur, change-le. Et on peut prier comme ça, si on veut, quand on est dans une difficulté avec quelqu'un. Je pense que c'est la chose la plus facile à dire, parce que ça revient à dire, oui, c'est lui, c'est elle qui a un problème. N'empêche, ok, tu demandes ça. Tu demandes ça, mais tu es en train de prier pour cette personne. Tu demandes quelque chose pour cette personne et quelque chose de bien. Et si tu continues sincèrement dans la lumière de Dieu à prier comme ça pour cette personne, même si ça commence en disant, change-la vraiment, ben peut-être Dieu va te surprendre et te conduire à dire autre chose. Et dire, Seigneur, ben aide-moi aussi à comprendre cette personne. Et puis Seigneur, ben bénis-le, bénis-la. Et là, ça change tout. Et si on commence à dire, Seigneur, bénis-le, bénis-la, tu ne passes pas simplement penser à cette personne comme ton ennemi ou comme celui ou celle qui t'exaspère, tes lignes intérieures vont devoir bouger. Et je trouve que Jésus ici nous donne vraiment quand même plus qu'une recette magique, c'est pas ça dont il est question, mais c'est une sorte de discipline formatrice. Une discipline formatrice de nos pensées, de nos affects, de nos réactions, Seigneur. Placez tout cela devant Dieu. Vive tout cela avec le Seigneur. Le soir, quand dans ton lit, si tu es en difficulté avec quelqu'un, plutôt que de ressasser toujours les mêmes pensées, prie pour cette personne. Tes pensées, utilise-les devant Dieu et vois avec le Seigneur comment ça peut avancer. Et pas juste une fois, pas juste deux fois, mais chaque fois que le film revient. Chaque fois que le film revient, et fais ça sincèrement, devant Dieu, sous son regard. Là, il y a quand même des choses qui doivent se passer. Il y a quand même des choses qui doivent se passer dans notre cœur. Et Jésus nous invite vraiment à cette discipline-là. Pas une recette toute faite, mais une vraie discipline. Une vraie discipline devant Dieu. D'honnêteté devant Dieu. Et c'est ainsi que Jésus dit, oui, en effet, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, hein. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Hein, voilà ce que Jésus nous dit. Bénir, c'est demander du bien pour la personne. Demander à Dieu du bien pour cette personne. C'est pas juste imposer les mains, hein, c'est demander du bien pour la personne. Et Jésus parle ici des ennemis, ceux qui nous veulent du mal, il dit jusqu'où ça doit aller. Mais en général, le défi est bien plus petit. C'est pas les ennemis. On a quelques ennemis, peut-être, ici ou là, mais il y a quand même plutôt des gens qui nous agacent, des gens qu'on supporte pas trop, des gens qui nous exaspèrent par leur attitude. C'est ça qu'on vit au quotidien. Mais c'est aussi avec ça qu'il faut venir devant le Seigneur régulièrement. Régulièrement. C'est en tout cas ce que Jésus a pratiqué le premier. Hein. Voyez-le à la croix. À la croix, le premier, il prie, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. » Jésus l'a prié. Mais prier cela dans ces conditions-là, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, c'est probablement ce que Jésus avait fait déjà des dizaines et des dizaines de fois. Il faut se rappeler qu'avant d'avoir des ennemis, il a eu des ennemis. Il a eu des tas de gens qui le jugeaient mal, qui le critiquaient dans tout ce qu'il faisait, qui démolissaient tout ce qu'il essayait de faire, qui attribuaient à Satan ce qu'il faisait au nom de Dieu, toutes ces choses-là. Tout ça, Jésus a dû le vivre au quotidien de son ministère. Il a vécu son ministère dans des critiques pas possibles. Et s'il prie à la croix, pardonne-leur, c'est qu'il avait appris à prier ça certainement avant. Et qu'il nous donne la recette, sa manière à lui de surmonter les situations d'hostilité, les situations de difficulté. Jésus nous invite donc à faire vraiment de la prière un lieu qui change notre regard, qui change notre regard sur les autres. Mais Jésus nous propose un autre objectif, c'est de nous comporter dans toutes nos relations comme des fils de notre Père. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il nous invite à nous comporter dans nos relations comme fils de notre Père, comme des enfants de Dieu. Là encore, c'est basique, On sait qu'on est enfant de Dieu, c'est basique. Et pourtant, ça doit changer bien des choses. Et ça peut nous conduire loin. Car pour Jésus, être enfant de Dieu, c'est pas juste appartenir à Dieu, c'est ça, oui, bien sûr. Mais c'est aussi être comme des enfants qui ont un peu un air de famille. Des enfants qui ressemblent à leur père. Ou des enfants qui acceptent de se conformer à ce que sont les valeurs de celui qui veut bien être notre père. Des enfants qui reflètent quelque chose des caractères, des caractéristiques de notre Père Céleste. Or, qu'est-ce qui caractérise notre Père Céleste? C'est que il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait lever son soleil, dit Jésus, sur les méchants comme sur les bons. Et il nous faut méditer cette affirmation qui semble si simple là aussi. Elle dit quelque chose d'assez inouï sur la vie de Dieu. Il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Pourtant, s'il y en a un qui sait la différence entre les justes et les injustes, c'est lui. S'il y en a un qui ne tolère pas de faire des amalgames entre ce qui est bien et ce qui est mal, c'est lui. S'il y en a un qui déteste tout ce qui est mal, qui ne supporte pas ce qui est mal, c'est bien lui. S'il y en a un qui mesure combien le mal et l'injustice sont des choses qui n'arrêtent pas de casser son beau projet, c'est lui. C'est jamais facile de faire face à ce genre de choses. Et notre Père Céleste, lui, il voit ces choses dans toute leur acuité. Et pourtant, il fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Il fait aussi lever son soleil sur ceux qui l'acceptent et qui lui sont reconnaissants pour tous ses dons, et ceux qui, d'un autre côté, se servent de ses dons pour mieux l'oublier, ou ne s'intéressent pas du tout à lui, ou aucune reconnaissance. Ce n'est pas évident. Quand personne ne reconnaît ce qu'on essaye de faire pour eux, on a parlé du Dieu créateur, du Dieu de la providence. Dieu n'arrête pas de donner sa providence largement et d'en avoir rien en retour. Pour combien de milliers, de millions de personnes Dieu donne sans rien avoir en retour? C'est ça la vie de Dieu. C'est là un aspect de la vie de Dieu. Et pourtant, le Seigneur fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Il pourrait choisir de faire autrement. Hein. Il pourrait choisir de faire sentir vraiment la différence. De dire, je vais vraiment bénir les justes. Et je vais pas laisser tranquille les méchants. Je vais faire du bien, oui, à ceux qui m'honorent, mais les autres, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Il pourrait faire comme ça. Il pourrait faire comme il avait distingué autrefois le peuple d'Égypte et les Égyptiens lors des 10 plaies d'Égypte. Il pourrait multiplier les grains de sable dans les rouages de ceux qui veulent pas vivre selon Dieu et faire en sorte qu'ils comprennent là que c'est pas bien ce qu'ils font. Il a fait le choix d'un autre langage, le choix de la bonté pour tous, de la vie donnée, de la vie renouvelée, de l'amour et du souci d'eux envers et contre tout. Alors que si souvent même, les bontés reçues de Dieu sont reçues par les gens et on s'en sert pour mieux oublier le donateur. Mais Dieu persévère vraiment dans cette attitude. Et je crois qu'il y a un aspect de la vie de notre Père Céleste qui est ça, de faire face à cette ombre permanente de l'ingratitude qui est une injustice à son égard. Et pourtant, il fait lever son soleil sur chacun. Et c'est un choix d'amour, c'est un choix assumé, un choix coûteux certainement. Un appel certainement aussi pour chacun à s'ouvrir à son amour. Hein. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul, la bonté de Dieu, elle devrait vraiment te pousser à la repentance. Regarde la patience dont tu es et la bienveillance dont tu es l'objet alors même que tu oublies le Seigneur. Et peut-être que c'est bon pour nous aussi de nous rappeler cela, que la patience de Dieu nous pousse à revenir à lui encore et toujours. Nous vivons tous en tout cas de trésors de bonté, de trésors de patience de la part de Dieu. Mais en méditant sur cette générosité de Dieu, difficile de mettre des limites en disant « moi j'aime ceux qui m'aiment, Moi, je salue juste ceux qui sont bien avec moi. Sous-entendu, les autres, je ne suis pas tenu de les considérer. Tout le monde sait faire cela. Tout le monde sait être juste bien avec ceux qui sont bien avec nous. Être bien avec ceux qui sont bien avec moi, être bien avec ceux qui ont mes goûts, être bien avec ceux qui ont ma manière de voir, être bien avec ceux qui sont de mon avis, c'est facile. Ça, on sait tous le faire. Fréquenter ceux qui partagent ma culture, ceux qui partagent ma foi, très bien. Avoir de la bonté pour ceux qui me ressemblent, pour ceux qui me conviennent, très bien. Et Jésus dit, mais tout le monde sait faire ça. Même les péagers, même les païens, tout le monde sait faire ça. Mais vous, vous êtes fils de votre Père, nous dit Jésus. Vous êtes fils de votre Père. Vous êtes fils de votre Père, alors que faites-vous? Que faites-vous? Si vous n'agissez, est-ce que vous serez comme simplement au même niveau que les païens? Et nous sommes enfants ensemble, la famille de Dieu. Et c'est ici qu'il nous faut recevoir vraiment ça, la question de Jésus. Et si vous ne saluez seulement vos frères, etc., que faites-vous d'extraordinaire? Mais que faites-vous d'extraordinaire? Il faut viser un peu plus haut. Il faut viser plus haut. Il faut qu'il y ait un plus. Maintenant, quel est-il ce plus? Est-ce que l'extraordinaire, c'est trouver des actions d'éclat? Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit toujours brillant, magnifique, éblouissant pour que les autres se pâment d'admiration devant ces merveilleuses qualités qui sont les nôtres. S'agit-il de vouloir sortir du lot à tout prix? On se rêve parfois un petit peu comme cela. Francis Cabrel a une chanson un peu mi-figue, mi-raisin sur cette question-là. Ça s'appelle « Des gens formidables ». Il dit « On serait comme ça des gens formidables, on se rêve comme des gens formidables ». Des êtres parfaits, des chanteurs charmants, charitables, humbles et discrets, contre toutes les injustices et de tous les combats. Mais on est normalement égoïste et c'est chacun chez soi. Waouh, ça parle, hein, ça. On se rêve tous comme ces gens charitables, machin chose. Et dans notre imaginaire, on est comme cela. En tant que chrétien, beaucoup d'imaginaires fonctionnent parce que ce sont nos valeurs. Mais où en est la vraie réalité? Et là, il dit, ouais, ça arrive, que être normalement égoïste, malheureusement, c'est ce qui revient facilement. Que vise Jésus donc? Jésus ne vise pas que l'extraordinaire fasse de nous des gens éblouissants, devant lesquels tout le monde va se pâmer. Souvenez-vous du début du sermon sur la montagne. Heureux, heureux les humbles de cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les doux, heureux ceux qui procurent la paix. On est là dans l'ordinaire, dans l'ordinaire d'une vie, dans l'ordinaire des relations, des choses simples qui se construisent là. Tout comme la bonté de Dieu se renouvelle vraiment dans l'ordinaire d'un matin qui se lève. L'extraordinaire dont Jésus nous parle n'est pas l'action d'éclat qui s'impose à tous. Hein. Ce n'est pas se jeter du temple, comme on lui avait dit, comme Satan lui avait proposé de faire. Ce n'est pas figurer quelque part dans le livre des records. Hein, j'ai lu là, il y avait un pasteur qui avait prêché 120 heures d'affilée. Vous voyez, voilà le genre de truc un peu ridicule. Ce n'est pas cela. Ce n'est même pas forcément l'extraordinaire, vous savez, une action d'éclat comme ça qu'on fait, et puis qui est suivie de rien. Ça arrive aussi, ça, ce genre de choses-là. Voyez notre Père Céleste, c'est chaque jour, sans bruit, qu'il fait lever son soleil. C'est chaque jour, sans bruit ni trompette, qu'il donne ce qu'il faut, qu'il montre sa grâce, qu'il montre sa fidélité, qu'il témoigne de sa bienveillance. Alors comment mesurer pour nous l'extraordinaire à faire, hein? Comment mesurer cet extraordinaire? On ne va pas donc chercher à éblouir, on l'a dit, hein, ce n'est pas ça qui compte d'abord. On ne va pas non plus chercher à être meilleur que les autres, ce n'est pas non plus ça l'extraordinaire. Hein. Jésus nous invite à nous comparer aux païens et aux publicains. Et le païen, le publicain, c'est celui qui est sans Dieu, simplement. Et je dirais que faire de l'extraordinaire, c'est simplement faire plus que ce que l'on ferait si l'on était sans Dieu. Ce n'est pas forcément faire des choses magnifiques, mais faire plus que si j'étais simplement sans Dieu. Et ça veut dire que ça amène à cette question en disant vraiment, est-ce que connaître Dieu, le fait de connaître Dieu, est-ce que ça me change? Est-ce que ça fait un vrai plus dans ces choses très concrètes de la vie? Est-ce que cela me change? Quelle différence est-ce que ça fait dans ma vie, le fait de connaître Dieu? Est-ce que ça me change un peu ou finalement, est-ce que être chrétien ou pas, c'est pareil? C'est comme ça la vraie question que nous pose cette question de Jésus sur l'extraordinaire, en disant, écoutez, les païens, ils savent tout faire. Hein. Vous pourriez faire des tas de choses aussi simplement sans Dieu, mais connaître Dieu, qu'est-ce que ça fait de plus dans ta vie? Est-ce que ça me change vraiment? Et je trouve que là, il y a vraiment des choses où c'est vraiment important de dire à Dieu, Seigneur, permets-moi que le fait de te connaître me fasse dépasser ce que sont mes simples relations normales, que ça puisse amener à des plus qui sont selon toi, que je puisse agir vraiment selon ce que toi tu aimes, selon ce vers quoi ton exemple me porte. Est-ce que vraiment cela me change? Jésus a vraiment à cœur que le fait que nous connaissions Dieu comme notre Père nous change, nous conduise à des plus que ce que nous ne faisons que parce que nous appartenons à Dieu, mais qui est de vrais plus qui se manifestent parce qu'on appartient au Seigneur. Et pas des plus magnifiques, mais dans le domaine de dire qui est-ce que je salue, qui j'aime, comment est-ce que je fonctionne dans le quotidien de mes relations. C'est vraiment ça ce que le Seigneur veut pour nous. Et cet extraordinaire-là, il va s'inscrire dans notre ordinaire. Donc on a bien compris, hein, je pense, c'est ce que j'essaie de dire au travers de ce message-là. Mais il va en devenir une force, un renouvellement, un progrès. Cet extraordinaire de Jésus, il se situe du côté de l'amour, du côté de la bonté de Dieu à incarner dans le quotidien de nos vies à nous, de nos relations à nous, dans la bienveillance dont Dieu est vraiment le modèle tellement parfait. Et cette question, elle doit accompagner notre cheminement quotidien, le renouveler aussi, Seigneur, que vraiment le fait d'être ton enfant, ton fils, ta fille, puisse faire une différence dans ma vie. Je ne veux pas, Seigneur, que ce soit pareil, hein, que je te connaisse ou que je ne te laisse pas, que ce soit la même chose. J'aimerais que vraiment cela fasse une vraie différence dans ma vie. Il ne s'agit pas, je le répète, de vouloir briller ou scintiller, mais d'honorer notre Père Céleste, d'honorer son Fils qui est venu vers nous aussi, qui a manifesté tellement de bonté de Dieu envers nous, qui a jusqu'à donner sa vie pour nous, et d'honorer le Saint-Esprit aussi qui veut nous transformer et former Christ en nous. Visons cet extraordinaire-là à portée de vie quotidienne, à portée de relations fraternelles, à portée de bienveillance mutuelle, à portée d'application juste de faire le bien, de tendre la main vers l'autre. C'est ces choses-là que Jésus vise. Et c'est ainsi que nous pourrons vraiment avancer avec le Seigneur. Alors j'ai conscience qu'en tant qu'Église, vous avez un passage qui est difficile, qui n'est pas facile à vivre. Mais voilà, appliquez-vous à ces petits plus. Ces petits plus que le Seigneur nous demande et qu'il veut nous aider à réaliser. Et je suis persuadé qu'en faisant ces petits plus quotidiens dans toutes les petites choses de nos relations, de ce que nous sommes appelés à vivre, que vraiment, il sera possible d'avancer vraiment. Il sera possible d'avancer. Et qu'en conjuguant aussi ces petits plus des uns et des autres, ça donne quelque chose de vrai. Ça donne quelque chose de vrai. Alors, c'est ce que je souhaite pour vous aussi, que le Seigneur vous accompagne, vous aide dans ces petits pas à faire. Et l'extraordinaire de Dieu peut se réaliser dans ces petites choses où nous avançons fidèlement dans le sens de la générosité, de la bienveillance à l'image de notre Père Céleste. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne, c'est vraiment ma prière pour vous tous.